France Inter, Alexandra Ben Saïd, Ali Badou, le 7-9.
L'invité du grand entretien ce matin, celui que nous accueillons avec Alexandra Ben Saïd, est ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Il a quitté la vie politique en France pour la poursuivre de l'autre côté des Pyrénées. Il est aujourd'hui conseiller municipal de Barcelone. Vos questions dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. L'actualité, c'est évidemment cette attaque hier après-midi dans la mosquée de Bayonne. Deux personnes gravement blessées. C'est par balle. Le suspect est un ancien candidat du Front National. Des responsables musulmans estimaient qu'il ne fallait pas s'étonner de cette attaque, Manuel Valls. Je les cite. Il ne fallait pas s'en étonner dans le climat actuel de stigmatisation de l'islam. Ça ne vous étonne pas non plus ?
Non. D'abord, il faut condamner évidemment cette attaque. Pensez aux personnes blessées. Je crois que l'un des blessés est dans un état particulièrement critique. Et puis dire à, non pas à la communauté musulmane, comme on dit, mais à nos compatriotes, aux Français, aux concitoyens de confession et de culture musulmane, le soutien et la solidarité de toute la France. Parce qu'au fond, combien de fois, nous l'avons dit les uns et les autres, quand on attaque un lieu de culte, on attaque ce qu'est tout simplement la France et la République. Mais il y a un climat, et pas seulement en France. Général, avec ces théories qui viennent de la droite la plus extrême, ces théories du grand remplacement, ces théories sur, je mets des guillemets bien sûr, l'homme blanc qui serait menacé, qui font que aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en France aujourd'hui, des individus peuvent prendre des armes et commettre le pire et l'irréparable.
Il y a un climat anxiogène, vous venez de le décrire, qui est nourri par les amalgames, qui est nourri par des discours de haine. Comment faire le lien entre le discours, les opinions, le rejet des musulmans et le passage à l'acte violent? Puisque vous avez connu ces questions-là, les paroles de haine qui sont de plus en plus fréquentes, sont-elles directement responsables de l'action violente?
Mais tout discours, toute théorie, toute parole, à un moment ou l'autre, peut produire de la violence. Pas toujours. Mais la théorie, les théories notamment qui portent de la violence, du rejet, de la haine, nous le savons depuis Sorel, depuis Gobineau, portent, je parle de théoriciens de la violence du 19e siècle, ou de l'antisémitisme, portent à un moment ou l'autre le passage à l'acte, nous le savons. Mais permettez-moi avec, non pas un peu de recul, parce que malheureusement tous les pays sont confrontés à des types de violences. Ce qui me frappe, et avec ma part de responsabilité, j'ai exercé, vous le rappeliez, le pouvoir, c'est que dans ce climat sort un sondage, mais qui ne fait que confirmer des études que nous avions depuis des années, qui montre que les Français considèrent la laïcité en danger, l'image de l'islam en sort défiguré, sans doute d'abord par l'islamisme radical, mais dans ce climat que vous décriviez, et l'attrait de l'extrême droite et de sa stigmatisation en sort renforcé. Donc, dans ce climat-là, la question est de savoir, et c'est la plus difficile bien sûr, parce que combien de discours, combien de condamnations, combien de mots piégés, dans ce climat-là, il faut chercher la solution, la réponse la plus appropriée à ce qui se passe. Il ne suffit pas de dire que les discours, y compris on pense à ceux du président de la République ou à je ne sais quelle personnalité politique, produisent cela. Bien évidemment non, c'est bien qu'il y a un problème de fond et qu'il faut s'attaquer aux racines du problème de fond. Je reconnais que c'est évidemment très difficile.
Pour vous, la lecture de cette enquête, qui est parue donc en effet dans le JDD, c'est une enquête IFOP, c'est que la laïcité est un problème de fond. On voit quand même dans ce sondage que c'est la dernière des préoccupations des Français. La première, c'est la santé, ensuite il y a le chômage. Vous considérez que cette enquête-là, elle disait que c'était une préoccupation majeure ?
Non, l'enquête dit que les Français considèrent que la laïcité est en danger.
Les Français qui se préoccupent de la laïcité,
oui,
de la défense de la laïcité.
Mais d'une manière générale. Et que l'islam, disent-ils, à tort, je crois, n'est pas compatible avec les lois de la République. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Or, je me rappelle de ces enquêtes, quand j'étais Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, c'est une évolution profonde qui est inquiétante. Et, or, qu'est-ce que nous avons voulu combattre ou éviter au cours de ces dernières années? la fois combattre, bien sûr, la radicalisation, bien sûr, le terrorisme, d'un côté, et de l'autre côté, à juste titre, ne pas stigmatiser, ne pas créer des amalgames. Tout le monde dit, et avec raison, que l'immense majorité des musulmans n'ont rien à voir avec l'islam politique, l'islamisme, et encore plus, le terrorisme. Mais cela a produit aussi un effet, c'est que nous n'avons pas combattu suffisamment tous ces phénomènes, et notamment celui de l'islamisme. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Moi, je crois qu'il faut combattre avec la même détermination l'islamisme, l'islam politique, en faisant appel aux responsables musulmans, ce qui n'est pas facile, vu l'organisation ou la non-organisation de l'islam sunnite.
Il y a des paroles qui manquent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la parole du chef de l'État qui manque sur ce problème? Est-ce qu'il y a, certains la réclament, sur la laïcité? Est-ce qu'il y a une parole des responsables musulmans qui manque? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire?
Mais sans doute, il y a eu beaucoup de paroles, et je crois que le président de la République s'exprime beaucoup ces derniers temps sur ces questions-là. Mais je pense que c'est une mobilisation de toute la société. Il ne suffit pas d'un responsable. À la fois pour lutter contre ce qu'on appelle l'écommunitarisme dans les quartiers, j'oublie pas que j'ai été élu d'Evry, et la pression dite communautaire qui peut s'exercer dans ces quartiers. Et de l'autre côté, il faut aussi une lutte très déterminée, politique, culturelle, parfois elle peut être judiciaire, contre ce discours de haine qui vient de l'extrême droite. Donc c'est une lutte commune, très très déterminée. Mais il en va de la responsabilité de tous. Et je reconnais...
Justement, puisqu'on parle de responsabilité, est-ce que vous reconnaissez aussi une part de responsabilité, Manuel Valls? Vous étiez le tenant d'une ligne dure, d'une conception que certains diraient maximaliste de la laïcité. Beaucoup comprenaient ces positions comme un rejet de l'islam, comme en vérité une manière d'exclure ou de pointer du doigt les musulmans dans la communauté nationale.
Cela n'a aucun sens. Il suffit de relire, notamment parce que c'était un moment important, c'était après les attentats de Charlie, de Montrouge et de l'hypercachère, le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale le 13 janvier 2015, et je parlais aussi en connaissance de cause. J'étais l'élu d'une circonscription avec une très forte présence de l'immigration et de beaucoup de nos concitoyens, d'amis de confession ou de culture musulmane, et je prenais cet exemple d'un ami très cher musulman qui, en pleurs, me disait qu'il ne supportait pas qu'on puisse confondre sa religion de paix avec la violence. Non, moi, l'idée d'une laïcité de combat, où je me rappelle de mots auxquels j'avais réagi du président de la République sur la radicalisation de la laïcité. Je n'étais pas d'accord, bien sûr, avec ce terme. J'avais dit combien de morts? Là, on ne tue pas au nom de la laïcité. La laïcité, c'est l'esprit de la France, c'est la liberté de croire ou ne pas croire, c'est la concorde, c'est ce qui nous permet de dire que c'est insupportable.
Mais quand vous parlez de laïcité, vous pensez souvent islam. En Espagne, par exemple, où vous vivez, aucune confession n'a le caractère de religion d'État, mais de nombreux représentants de l'État jurent sur la Bible, ils abordent des croix dans les mairies, la loi condamne toujours le délit de blasphème. Comment on dit laïcité en castillan d'ailleurs?
On parle du laïcisme, hein, et d'ailleurs pas toujours en des termes très positifs, encore que d'autres défendent l'idée qu'au fond, la France des Lumières aurait dû à un moment réussir à imposer ou importer ou exporter cette idée. Chacun a sa tradition, mais la France a une belle tradition qui est basée notamment sur, au fond, le siècle des Lumières et sur des valeurs qui sont universelles. Dans une forme de critique de la laïcité, il y a au fond souvent une forme de critique de la France et de ce qu'il y a de meilleur d'elle-même. Non, je crois que la séparation des églises avec l'État, la possibilité de croire ou ne pas croire, la possibilité de se convertir, l'égalité entre les femmes et les hommes, sont des valeurs universelles qui ne sont pas propres à la France et qu'il faut partout, évidemment, défendre. Mais non, moi je suis le tenant toujours d'une belle laïcité, parce que c'est le meilleur moyen de protéger. Et pardon, d'une seconde, je l'ai toujours dit, une des plus belles démonstrations que nous avons à faire pour nous-mêmes, à l'Europe et au monde, c'est de montrer précisément que dans ce pays, l'islam, les musulmans sont parfaitement compatibles avec les valeurs de la République. Or, s'il y a un doute au sein des Français, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un danger de concorde nationale. Donc, il faut aider, protéger d'abord, aider les Français musulmans à combattre au sein même de l'islam ceux qui portent l'idéologie de haine.
Et lorsque vous entendez, c'était avant Bayonne, mais vous entendez Emmanuel Macron qui dit qu'il envisage à présent, c'est nouveau, des mesures contre le communautarisme, la dissolution plus souvent de certaines associations, l'interdiction de certaines pratiques. C'est nouveau. Vous dites quoi? Qu'il se valsise, Emmanuel Macron?
Non, mais je ne me permettrai pas de dire cela. Et deuxièmement, qu'il a raison. Le président de la République, j'en suis convaincu, doit être obsédé par une idée qui est celle de l'unité. Et la France et la protection de ses compatriotes. C'est évidemment sa charge, donc il est préoccupé par cela. Mais au nom même, souvent, de la volonté justifiée de ne pas faire l'amalgame et de ne pas stigmatiser, on n'a pas regardé ce qui se passait dans un certain nombre de quartiers. Pas partout, mais de ce qui se passait dans un certain nombre de quartiers.
Mais quoi, Emmanuel Macron, Manuel Valls disent ce qui se passe dans l'espace public, c'est pas l'affaire de l'État. Parlons du voile, ça n'est pas l'affaire du président de la République. Vous signez?
Non, ça dépend. Ce qui se passe dans la sphère publique est l'affaire de l'État, de l'ordre public parfois, et de la société. Quand une loi au nom même de l'ordre public avait été votée, je l'avais votée, nous avions été quelques socialistes à la voter, pas tous, pour interdire le voile intégral au nom de la notion de l'ordre public dans l'espace public, c'est que la République s'intéressait à ce problème. Mais je pense que l'une des priorités aujourd'hui, parce que je connais les débats ici en France, comme partout d'ailleurs, et ils sont piégés, c'est la lutte précisément contre le communautarisme, l'influence de l'islamisme ou de l'islam politique, les pressions qui peuvent s'exercer dans les quartiers ou sur les familles, et une lutte, je crois, très déterminée, qui n'est pas facile, contre le salafisme et les frères musulmans. Parce que ils ne veulent pas prendre le pouvoir en France, ils veulent prendre le pouvoir parmi les Français musulmans. C'est pour ça que c'est un combat au sein même de l'islam.
Sur le voile et les mères accompagnatrices de sorties scolaires, puisque vous suivez les débats, les sénateurs, les Républicains veulent reposer la question de l'interdiction. Ça se passe aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible?
Je pense que toutes ces questions devraient faire l'objet d'un consensus ou d'une recherche de consensus, d'unité. Je le sais bien, on l'a fait par le passé, mais légiférer de cette manière ne me paraît pas toujours la bonne manière. Je me retrouve beaucoup dans les propos, parce que je suis évidemment, et en préparant cette émission je les ai relus, du ministre de l'Éducation,
Jean-Michel Blanquer.
Je partage l'idée que le voile n'est pas souhaitable, parce que, même si c'est une liberté, parce que d'une manière ou d'une autre...
Il n'est pas souhaitable où, pour vous?
Dans la société, mais c'est un débat, nous avons le droit d'ailleurs de le dire, parce que ça pose un problème sur quelle est la place, l'altérité du visage des femmes. Mais après, il a raison aussi de souligner que le problème, c'est celui du prosélytisme. Moi, je me rappelle, les mamans accompagnatrices dans les écoles pouvaient avoir des femmes qui ont envie de sortir de chez elles. C'est une sortie très importante. Ce sont des mamans qui viennent d'un pays où il y a un certain nombre de traditions. On peut pas les parquer dans les maisons. D'autres, en revanche, parfois aussi des Françaises converties, en font un étendard politique.
Donc,
c'est d'une très grande complexité. C'est pour ça que les circulaires, Châtel, Vallaud-Belkacem, Conseil d'État ont posé le problème. Je pense que dans ce cas-là, la loi est très compliquée, mais surtout, cela cache le problème plus général. C'est pour ça que le chef de l'État a raison de mettre le paquet sur la lutte contre le communautarisme, je rajoute, contre l'islam politique.
Ne faisant pas de loi, est-ce qu'on n'est pas en train de renvoyer la patate chaude aux enseignants, à eux de faire le départage entre celles qui sont prosélytes et celles qui
ont leur conscience? Bien sûr, c'est tout le problème. Et on pourrait ajouter les élus, les maires, MAIRES, qui ont été confrontés à ces questions. Mais le directeur d'école, la directrice d'école, l'enseignant,
ont
aussi son propre responsabilité. C'est vrai, ils sont en première ligne. C'est vrai, ce sont toujours les hussards de la République. C'est pour ça que toute circulaire, tout texte doit permettre ces équilibres. Je reconnais que c'est difficile, mais attention, ça n'est que l'un des sujets. Nous voyons bien, et vous voyez bien, moi je le vois plutôt de loin maintenant, que cette montée du communautarisme, pas si loin, et puis je viens souvent ici pour voir les miens, pour voir mes enfants, mais il y a évidemment cette montée de ce qu'on appelle le communautarisme, cette pression dans les quartiers, cette césure, ces fractures ne sont pas nouvelles dans les quartiers de notre République.
Vous êtes resté en contact avec François Hollande lorsque vous venez à Paris. Est-ce que vous rencontrez l'ancien chef de l'État ?
Non, cette fois-ci, non. Il m'est arrivé de le rencontrer, en tout cas, d'échanger avec lui, comme avec Bernard Cazeneuve, mais aussi avec le président de la République, l'actuel.
Vous avez lu le dernier livre de François Hollande, Répondre à la crise démocratique. Il y plaide pour un vrai régime présidentiel. Il propose de supprimer le poste de Premier ministre. Qu'en pense justement l'ancien Premier ministre Manuel
Valls ?
J'espère
qu'il ne pense pas à moi, ou à l'expérience qui a été la nôtre. C'est difficile pour moi, Libadou, de tout commenter, parce qu'en plus, là, il s'agit des institutions. Mais enfin, je vais vous répondre.
Il s'agit de la crise démocratique,
bien
qui est
sûr,
un sujet de
mais
fond.
Je ne pense pas que ce soit la réponse à la crise démocratique. Il y a une crise de la démocratie, et il y a une crise de la démocratie libérale et représentative, partout dans le monde. Ça, c'est une réalité. Et on peut toujours l'améliorer. Mais je pense que le système des institutions de la Ve République est solide, il permet de gouverner. Et la dualité président-premier ministre me paraît être celle qui fonde l'équilibre. Non pas parce que j'ai été Premier ministre ou parce que je souhaite le redevenir, mais tout simplement parce que c'est aussi une expérience que j'ai vécue. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et encore moins avec un sextennat, je crois.
6 ans, oui.
Sans possibilité d'être réélu, je pense que ça marche pas.
Avant-hier dimanche, et il y a des questions d'auditeurs sur le sujet, vous participiez à la manifestation des partisans de l'unité espagnole, opposant radical à l'indépendance de la Catalogne. C'est ce que vous êtes. Que pensez-vous ? Expliquez-nous pourquoi cette position de principe, pourquoi refuser le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour le dire très simplement. Au nom de quoi s'y opposer si c'est la volonté des Catalans ?
Mais parce que les Catalans ne sont pas un peuple en tant que tel, sont dans le peuple espagnol, c'est une nation. Le droit à l'autodétermination n'est pas prévu dans la Constitution espagnole. Il s'exerce d'ailleurs de manière extrêmement prudente en Europe. La Catalogne, c'est l'Espagne. La Catalogne a besoin de l'Espagne, l'Espagne a besoin de la Catalogne. La Catalogne n'a jamais été indépendante. La Catalogne est profondément imbriquée avec sa propre identité. Le catalan, qui est parlé par beaucoup de ceux qui vivent en Catalogne, par la Catalogne a son identité, une autonomie qui n'existe, qui n'est même pas envisageable en France et qui est l'une des plus avancées en Europe. Et je vous rajoute quelque chose, d'un mot, l'indépendance telle qu'elle est vécue, si elle se produisait, elle ne se produira pas, mais briserait l'Espagne et ouvrirait un débat en Europe avec des conséquences considérables. Je rappelle la belle phrase de François Mitterrand au Parlement européen, le nationalisme, parce qu'il s'agit de cela, c'est pas un élément de liberté, le nationalisme c'est la guerre.
Question d'auditeur justement sur cette question catalane. Bonjour Joseph et bienvenue.
Bonjour.
Sur France Inter. Votre question à Manuel Valls.
Oui, alors je précise que je suis catalan, fils de catalan, et jusqu'au XIIIe siècle, hein, parce que la Catalogne, elle est indépendante, autonome en tout cas, et largement, depuis le XIVe siècle. Alors venir dire que la Catalogne n'a jamais été indépendante, c'est de la foutaise, monsieur Valls. Oui, alors la question, vous avez dit l'Espagne est une démocratie. Très bien, que pensez-vous d'une démocratie où on emprisonne les gens qui organisent pacifiquement, un référendum où 2 millions et quelques de Catalans se sont exprimés. Que pensez-vous de ça ?
Votre réponse à Joseph Manuel Valls.
Alors je le ferai poliment. Ma famille de mon père est catalane depuis plusieurs siècles, mais ça ne me donne pas de droit. Il n'y a jamais eu de Catalogne indépendante. Il y avait le royaume d'Aragon et de Catalogne, mais on ne va pas embêter les auditeurs de France Inter à propos d'un cours sur l'histoire de la Catalogne.
Même non, si mais c'est passionnant. Les manifestations
c'est passionnant.
En Catalogne intéressent tout le monde,
bien
puisque
sûr.
C'est un sujet que nous regardons.
Tout à fait. L'Espagne est un pays qui vit ses 40 meilleures années de son histoire moderne. Depuis la mort du dictateur Franco et avec sa transition démocratique, une constitution très avancée, la séparation des pouvoirs et des autonomies pour le Pays Basque, la Galice et la Catalogne surtout, qui sont en matière de compétences, le gouvernement catalan a la compétence sur la sécurité, sur la santé, sur la gestion des prisons, sur l'économie,
mais alors comment,
sur la télévision publique,
Manuel Valls,
sur l'école, donc c'est,
ça n'existe
pas.
Comment expliquez-vous cependant, cet auditeur a raison, il y a eu des centaines de milliers de personnes.
Il y a 7 millions et demi de
personnes.
Il y a 7 millions et demi de Catalans, il n'y a pas une majorité d'indépendantistes, et il y a un État de droit qui est l'Espagne.
Mais ça travaille toujours.
Mais oui, vous avez raison, je ne le néglige pas, ça n'aurait aucun sens. Parce que je crois qu'il y a toujours eu un mouvement indépendantiste, mais très minoritaire, qui a été accélérée par différents éléments. Le premier, c'est que, on en parle peu ici, c'est qu'il y a eu 30 ans de propagande très puissante voulue par celui qui a été le président de la Généralité de Catalogne pendant les années Pujol, à travers l'école et la télévision, donc ça a eu son effet. Mais il y a eu surtout une accélération liée à la crise économique, aux affaires de corruption de ce parti, dont les dirigeants issus de la droite la plus bourgeoise ont décidé de devenir indépendants, de s'allier avec les indépendantistes, de s'allier avec un parti anticapitaliste, anti-européen et anti-État, pour fuir aussi de ce qu'ils étaient en train de connaître et de la justice espagnole. Et puis, plus généralement, d'une crise d'identité qu'on connaît partout. Au fond, la peur de la mondialisation, la peur des autres, la peur de perdre sa propre identité, vous conduit parfois à se dire, voilà un projet. Ça ressemble un peu, si je trouve un exemple, au Brexit, d'une certaine manière.
Bonjour Pierre, et bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Votre question à Manuel Valls.
Oui, d'abord me présenter, je suis militant socialiste, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Valls lors des primaires à Limoges, j'étais un de ses soutiens. Je suis un militant socialiste en colère notamment contre M. Valls, par rapport à mon immense déception que j'ai eue pour sa conduite, parce qu'il a soutenu, comme M. de Rugy, M. Macron dès le premier tour, participant ainsi au discrédit de la parole politique. Ensuite, M. Valls a fait le choix de son implication à Barcelone, c'est son choix le plus légitime, mais pour moi, à présent, sa parole en France est complètement démonétisée, en particulier par rapport à la laïcité, sujet éminemment important et spécifique à notre belle République française.
Que répondez-vous à Pierre, votre ancien camarade du Parti Socialiste, Manuel Valls ?
Ma liberté personnelle, ça a été, je l'ai fait, je crois, l'explication que je devais aux Français a été de changer de vie, le reconnaît, de revenir dans le pays où je suis né, qui est celui de ma famille. Je garde un lien profond avec la France, une grande reconnaissance à l'égard de la France et des Français. La France m'habite toujours, elle est toujours dans mon cœur et dans mes esprits. On peut avoir des désaccords, mais pas nier à l'autre la possibilité de s'exprimer, surtout quand je réponds à une invitation de France Inter.
Quelle est la principale leçon, Manuel Valls, que vous avez apprise en Espagne, de la politique espagnole par différence avec le fonctionnement de la vie politique française ?
Vous savez, l'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir, l'abaissement du niveau politique, c'est quelque chose qu'on connaît partout. Je l'exprimais il y a quelques jours, deux leçons principales. D'abord sur le système électoral, on critique beaucoup celui qui est en France, mais je peux vous dire que la proportionnelle intégrale à tous les niveaux, local, régional, national, quand il y a beaucoup de partis, empêche de gouverner, empêche de réformer, impuissante le pouvoir politique. Et la deuxième, c'est que en Espagne, il y a un débat, c'est ce qui explique aussi la crise en Catalogne, c'est qu'il n'y a pas eu de patriotisme, ou plutôt le patriotisme est un mot piégé. Il ressemble trop à ce qu'a été le patriotisme franquiste, alors que ici tout le monde se considère comme patriote en France, comme patriote républicain. Et au fond, ce qui manque en Espagne, c'est un récit. C'est un récit national sur ces 40 dernières années, c'est ce qui unit un pays où on parle plusieurs langues, mais qui en même temps unit un pays qui est très important pour l'Europe, pour son lien avec le Maghreb, avec l'Afrique, la Méditerranée, avec l'Amérique latine, bien évidemment. L'espagnol est une des langues les plus parlées aujourd'hui dans le monde, donc l'Espagne a des choses à dire et à faire, et ça manque. Donc ce que je veux dire, c'est que le mot patriotisme, voilà, c'est un mot qui manque là-bas. Et de l'autre côté, en Espagne, la diversité, un État qui est moins présent, le rôle de la famille permet aussi parfois de régler les problèmes, alors qu'en France on attend tout, de plus important de la dissuasion nucléaire jusqu'à la vitesse sur les routes, on attend tout d'un seul homme ou d'un seul personnage, le président de la République. Voilà, donc
on comprend que votre avenir il va s'écrire désormais en Espagne et plus du tout en France.
Oui, je crois. Je pense que c'est un avenir. Enfin, c'est l'avenir. C'est ma vie.
Votre avenir politique.
C'est ma vie personnelle. Mais je fais pas de la politique comme je le faisais ici. Je suis conseiller municipal à Barcelone.
Ça suffit ? Il n'y a pas de prochaine étape ?
Non, moi je veux être utile là-bas au constitutionnalisme. Pourquoi ? Parce que je considère que ce sont les mêmes débats contre les nationalismes, contre les populismes de droite comme de gauche, pour l'Europe, parce que je pense que c'est la grande affaire, pour la démocratie. Je me retrouve avec ce que dit souvent Emmanuel Macron, je le pense aussi, le fait que le grand débat est entre la démocratie et les populismes, moins entre la droite et la gauche.
Et donc la prochaine étape pour vous, Manuel Valls, en politique, en Espagne, qu'est-ce que ce sera ?
Je ne sais pas encore, ça dépend, mais en tout cas, j'essaye avec d'autres personnalités d'unir le constitutionnalisme. Et puis, comme il y a des élections législatives dans quelques jours, de tout faire pour que les grands partis constitutionnalistes, aucun d'entre eux n'aura la majorité, réussissent à s'unir, à gouverner ensemble, en tout cas à trouver des accords pour trouver une solution au problème catalan, qui, à travers la fermeté constitutionnelle, mais aussi à réformer l'Espagne. Donc, mon avenir personnel d'abord, si j'ai trouvé mon équilibre, c'est bien sûr en Espagne, c'est à Barcelone. Je suis français, espagnol, barcelonais et profondément européen. Je suis un citoyen du monde, donc je traverse la frontière sans aucun problème.
Est-ce que vous vivez parfois des contradictions? Un exemple, celui du cannabis. Vendredi dernier, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis en Espagne, en Catalogne, notamment là où vous vivez. C'est une consommation, la culture du cannabis qui est tolérée. Qu'est-ce que vous préférez comme système?
Ah, je ne vis pas de contradiction, je reste personnellement toujours très opposé à la légalisation du cannabis récréatif. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que dans tous ces pays-là, ce qu'il faut, c'est mener des campagnes de prévention très fortes, vu les dégâts de toutes les formes de cannabis, parce que on le voit sur les enfants. Et c'est vrai en Espagne, et c'est vrai en France. Donc je résous mes contradictions par des valeurs et des convictions profondément ancrées.
Merci Manuel Valls d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Bon séjour en France et bonne journée à